Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous parlez d'un homme seul.
Seul avec son chien qu'il promène rue de Bièvre dans le 5e arrondissement de Paris. Il porte une veste en cuir, un jean un peu trop large, le visage caché par son masque et sous une casquette. On ne distingue que la ligne de ses sourcils broussailleux. Cet homme s'appelle Olivier Duhamel. Cette photo, vous la trouverez ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Reportage sur le reclus du quartier latin. Olivier Duhamel, invisible ou presque depuis la sortie d'un livre qui marquera l'histoire, La Familia Grande de Camille Kouchner et ses accusations d'inceste. Olivier Duhamel qui repousse le reporter venu l'interroger sur le pas de porte de son immeuble. Non, il ne dira rien. Cloîtré dans son petit studio au rez-de-chaussée d'un immeuble cossu de la rive gauche. Quant aux voisins, les habitants du quartier, ils en parlent peu et rarement en bien. Vu qu'ils ne disaient jamais bonjour, ça ne changera pas beaucoup, confie l'un d'eux. Au bout du compte, le Parisien ne trouve qu'une voix pour défendre Olivier Duhamel. Toujours la même, celle de l'avocat Jean Veille. « Je ne l'excuse pas, dit-il, ce qu'il a fait est condamnable, mais il reste mon ami. » Jean Veille, inquiet à l'idée qu'il puisse mettre fin à ses jours pour, je le cite, « une sordide affaire qui remonte à plus de 30 ans maintenant ». Fin de citation, mais pas fin de l'histoire. Le journal rappelle qu'Olivier Duhamel fait l'objet d'une plainte et qu'il sera auditionné dans le cadre de l'enquête. Il faudra bien sortir du mutisme. Au-delà de cette affaire, le Parisien évoque une lame de fond, une révolution culturelle.
Et toujours dans la presse ce matin, Jean-Philippe, le Covid et un nouvel avis de tempête dans les hôpitaux.
Ouais, ils vont devoir passer en organisation de crise. Et vite, c'est le JDD qui révèle une circulaire de la Direction Générale de la Santé. Elle demande aux établissements d'augmenter le nombre de lits, de déprogrammer des opérations. Tout doit être prêt pour la semaine prochaine, 18 février, ce sera jeudi, en prévision d'une nouvelle vague épidémique. On n'en sort pas, mobilisation générale et internationale, ajoute Emmanuel Macron, qui veut que l'on accélère l'immunisation partout dans le monde. Contre un ennemi commun, ou plutôt des ennemis désormais, les variants qu'il faut prendre de vitesse. Cela passe aussi par une distribution des vaccins de manière équitable entre les pays, plus ou moins riches. C'est ce que dit un article paru dans la revue scientifique de Lancet et co-signé par le professeur Arnaud Fontanet. Pendant ce temps, chez nous en France, on n'a pas forcément toutes les doses, mais on a un commando. Le JDD vous raconte les coulisses de la Task Force Vaccin. Petite usine de logistique dirigée par deux femmes, deux jeunes trentenaires, hautes fonctionnaires. Je vous présente Laetitia Buffet, une énarque au ministère de la Santé, et Ombeline Gras, inspecteur des finances qui négocie entre autres avec les labos. Dans leur équipe, on croise aussi bien des médecins que des ingénieurs des mines, des universitaires, et même un général de l'armée, nous dit le JDD. Notre point commun, c'est qu'on aime l'action, il faut savoir s'adapter. Tu m'étonnes. D'ailleurs, on s'adapte aussi à Courchevel, dans Le Parisien. Ce récit absolument lunaire, où l'on apprend que la station a ouvert une piste bleue et que, faute de remontée mécanique, on y grimpe en voiture. Oui, France Bleu en avait parlé également. Scène surréaliste, donc, sur un petit parking de Courchevel. C'est une noria de taxis, de navettes, des embouteillages dignes de Paris aux heures de pointe. Une mère de famille raconte qu'elle joue les chauffeurs pour ses enfants et son mari. Elle les dépose en haut et va les récupérer en bas, et ainsi de suite. On imagine la pollution, les écologistes du coin sont verts de rage. Est-ce bien raisonnable ?
Jean-Philippe, vous avez aussi jeté un œil sur la presse étrangère ce matin.
Ouais, la presse américaine en breaking news cette nuit avec l'acquittement de Donald Trump dans son procès en destitution devant le Sénat. À la une de son site, le Washington Post parle d'un échec qui souligne l'emprise de l'ex-président sur le parti républicain. Un vote qui ferme les yeux sur les violences au Capitole, la sédition, les meurtres de flics, s'emporte un éditorialiste sur la chaîne MSNBC, un vote qui va hanter à jamais le parti et conduira à son effondrement, dit-il. De son côté, le site de Fox News préfère mettre en avant le communiqué de remerciement de Donald Trump, la fin d'une chasse aux sorcières, la suite d'une incroyable aventure. C'est une évasion, mais pas une exonération. Nuance de son côté, le New York Times, qui évoque un avenir politique très incertain. Il faut dire que 7 sénateurs républicains ont rompu les rangs, notent les médias américains, qui citent un réquisitoire d'une rare virulence de leur chef de file, pour qui Donald Trump est, dans les faits, et moralement responsable, il n'y a aucun doute. Les Américains qui vont peut-être faire une légère pause dans les prochaines heures en ce Valentine's Day, la Saint-Valentin. Oui, c'est du sérieux là-bas.
Ah, c'est pas mal, Valentine's Day, je trouve.
Et chez nous aussi, c'est du sérieux, si j'en juge par le nombre de vos journaux qui en font leur une ce matin, avec des photos que je qualifierais dans l'ensemble d'assez gnangnan. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'air un peu con-con quand on est amoureux.
Beau aussi quand on est amoureux. Beau et con, d'ailleurs, chantait Jacques Brel. Merci Jean-Philippe Ballas.